L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui plonge en effet avec l'association Eaux et Rivières de Bretagne qu'on retrouve chaque mois, vous le savez. Cette saison, on sent qu'il est question d'émotions, de sensations, car l'écologie et la préservation des milieux naturels, les milieux aquatiques ou pas d'ailleurs, passent aussi par ce qu'on éprouve, nous, les humains, face à la nature. Alors on ne pourra pas préserver notre planète si on reste insensible à ses beautés, à l'ambiance d'une forêt, à la familiarité d'une rivière comme le Whanganui en Nouvelle-Zélande. C'était le sujet de l'émission précédente. Les Japonais ont aussi beaucoup d'esprit de la nature. Alors cette fois, les beautés de la nature inspirent une photographe, Aïcha Dupois de Guita. J'ai bien prononcé votre nom?
Oui, très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Et elle est l'invitée d'Arnaud Clugery, le directeur d'Eaux et Rivières de Bretagne.
Bonjour.
Alors, pourquoi avoir choisi Aïcha comme invitée, Arnaud? Explique-nous.
Alors, ben, en effet, comme vous l'avez dit, dans la continuité de l'émission précédente, il se trouve qu'entre les deux, on a fêté nos 50 ans à Quimperlé, on en a longuement parlé, et que le thème de ces 50 ans était justement la question du sensible et le culturel, comment la culture, culture et patrimoine naturel font ce mélange, s'inspirent l'un l'autre. Et on a été très émus les uns les autres par la présence des invités maoris hein, qui nous ont rappelé un message que je vais résumer par cette phrase qu'ils ont scandée à plusieurs reprises, « Je suis la rivière et la rivière c'est moi », qui dit bien quelle relation ils ont su garder avec la nature. Et on est tous sortis de là conscients que après avoir cartographié la nature, passer la nature, traiter la nature sous forme de courbes, essayer d'alerter sur justement ces courbes qui allaient dans le mauvais sens, qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à toucher et que peut-être ce quelque chose, c'était le domaine du sensible et de l'affectif. Et on est sorti de là avec trois ambitions. La première, c'est d'essayer d'écrire une proclamation des droits de la rivière. La deuxième, c'est de travailler sur un premier projet d'atlas culturel et spirituel sur l'un des fleuves de Bretagne. Et le troisième, c'est de s'ouvrir un peu aux autres pays de culture proche des nôtres, ce qu'ont déjà fait beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la musique, de la langue. Donc c'est se rapprocher justement de l'Irlande, du Pays de Galles, renouer des liens et essayer de le faire au travers du lien patrimoine et culture. Et donc Aïcha, elle est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que son travail qui est fait ici en local avec nos paysages, c'est un travail qui nous invite. Enfin, c'est un ouvrage, c'est un regard sur la nature qui nous invite à cultiver cette émotion.
Alors Aïcha Dupois de Guita, vous êtes co-auteur d'un livre dont on va parler, mais avant ce livre, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail photographique? Depuis quand vous photographiez? Qu'est-ce que vous photographiez? Etc. Vous avez le temps.
La photo est venue assez tard, parce que moi c'est plutôt le monde de l'art en général qui m'a toujours passionnée, et l'art dans la nature évidemment. Donc moi j'ai fait une formation d'histoire de l'art et archéologie et j'ai toujours été plutôt dans les dessins, la peinture, les pinceaux pour exprimer mes émotions et voilà, c'était ça. Et puis donc j'ai fait plusieurs expositions, j'ai toujours peint hein, depuis... Bah, les enfants peignent tous, hein, font des dessins, mais je ne me suis jamais arrêtée.
Du figuratif plutôt, donc.
Alors, ça a commencé figuratif, mais très vite, je suis allée plutôt dans l'abstrait parce que j'arrivais mieux à retranscrire des émotions que je ressentais dans la nature. Donc, c'était les éléments, la mer, la forêt, les roches, tout ça. Et donc, c'est plutôt un univers onirique. Et ce qui est bien avec l'abstrait, c'est que chacun peut y voir aussi son émotion, son ressenti à chacun. Voilà, je ne veux pas fermer des portes, j'aime bien ouvrir plutôt des horizons. Et donc voilà, donc, petit à petit, la photo est venue à moi parce que J'étais dans un chantier de construction et je n'avais plus le temps de peindre. Mais j'avais besoin d'une parenthèse de poésie. C'était important entre deux coups de scie circulaire.
C'était voilà. Pas un chantier de fouilles archéologiques déjà.
Non, mais j'ai commencé par creuser. Ouais. Mais voilà, donc j'avais besoin de m'évader et j'ai la chance d'habiter donc sur la presqu'île de Crozon où il est très facile de s'évader en quelques minutes, d'être dans un univers maritime ou forestier, voilà. Et puis, donc je prenais mon petit appareil photo avec moi et je captais des instants, des lumières, des moments magiques que j'avais envie de partager parce que je trouvais que c'était dommage de les garder que pour moi et que je partageais sur les réseaux sociaux.
Et numérique, voilà. De la photo numérique.
Numérique, hein. Oui. Et petit à petit, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, merci, ça me fait du bien ». Je dis pas, je suis contente parce que moi déjà, ça me procurait beaucoup de bonheur en étant sur place. Et si je peux partager, transmettre ce bonheur-là, on va continuer. Alors voilà, petit à petit, j'ai continué à partager de plus en plus. Et c'est resté maintenant.
Et donc des photos de nature, enfin uniquement, pas de portraits ou autres.
Je travaille aussi avec les humains. En fait, j'aime ce qui est vivant, tout simplement, vivant, profond, authentique. Donc j'ai fait beaucoup de photos de nature, mais aussi des reportages sur des personnes qui me touchent. Donc ça peut être des personnes d'horizons très très variés, du moment que leur démarche est sincère et authentique. Donc c'est la rencontre avec, ça peut être des apiculteurs, des marins, des moines, des luthiers, voilà. Et,
en presqu'île, dans le Finistère à peu près, quoi.
Oui, Finistère plutôt, ouais. Oui, dans le coin, parce que rien n'est calculé, ça se fait au hasard des rencontres, des échanges, de l'instant, voilà.
Et alors, comment s'est présentée cette nouvelle histoire, donc le livre qui s'appelle donc « Eau intérieure », qui est un coup de cœur de la librairie Dialogue de Brest, dont vous êtes co-autrice. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre ?
Alors, c'est un livre qui propose de suivre le parcours de l'eau depuis sa source jusqu'aux portes de l'océan. Parce que aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup des océans, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais si on pouvait commencer à s'en préoccuper un petit peu en amont, ça serait bien aussi. Parce que tout commence là. Et la Bretagne est très réputée pour son littoral et on oublie un petit peu souvent ses richesses intérieures. Donc j'ai voulu un petit peu retrouver, repartager, faire redécouvrir ces trésors qui nous entourent. J'ai pas fait un inventaire, hein, j'en découvre encore tous les jours. Hein, donc. Mais c'était l'idée de partir depuis... la Bretagne intérieure, donc il y a le Trégor, il y a les monts d'Arrée, la vallée de l'Ailée, les montagnes noires, pour petit à petit arriver jusqu'à l'Aulne maritime. Donc moi, là, j'habite là, chez nous. Voilà. et c'est un endroit fabuleux où la rivière se transforme petit à petit en mer, dans son méandre, dans le calme, dans la magie.
Un estuaire.
Dans l'estuaire, voilà.
Et donc, vous avez photographié l'eau dans les endroits terriens que vous nous avez cités. C'était toujours l'eau, le
fil conducteur. L'eau, mais aussi tout ce qui l'entoure, parce que rien ne fonctionne seul, en fait. La nature est un ensemble, tout communique, ça ne fait qu'un tout. Donc j'ai photographié l'eau, mais aussi le minéral, le végétal, l'animal, le ciel, voilà, tout ça. Et donc c'est un parcours qui se fait au fil des saisons et au fil du rythme de l'eau. Parfois l'eau sort juste un petit peu, hein, comme un filet au milieu de l'humus, de la mousse, comme ça, comme un miracle dans les sous-bois. Et puis tout d'un coup, elle va se transformer en torrent, elle va accélérer, slalomer dans les rues, entre les rochers, tomber dans un fracas et puis s'arrêter, se reposer, refléter le ciel et disparaître tout d'un coup dans les tourbières pour réapparaître un peu plus loin. Voilà, donc c'est un petit peu cette eau qui apparaît, qui disparaît, qui est tumultueuse, qui est calme, qui est paisible, comme la vie.
Et ça, c'est un travail que vous aviez commencé de votre côté. Enfin, il n'y avait pas de commande particulière derrière ça.
Non, jamais, jamais. Ça se fait un petit peu au ressenti. J'avais déjà travaillé sur l'océan, j'avais travaillé sur la forêt. Et je me suis dit, on va faire quelque chose qui relie l'ensemble.
En effet. Voilà. Et comment s'est fait la rencontre avec l'autre auteur donc, de ce livre, « Eau intérieure », donc c'est Gilles Baudry.
Oui.
Alors, c'est un moine de Lanzvenec, c'est ça, hein ?
Voilà, nous sommes voisins déjà.
Déjà, voilà.
Pour commencer, nous avons tous les deux choisi de venir vivre à Lanzvenec. Et j'avais déjà travaillé avec lui pour le précédent livre « Matin des arbres », donc sur la forêt qui nous entoure. Et en fait, c'est une rencontre qui s'est faite d'abord par hasard dans la forêt. J'étais à cheval, je l'ai croisé dans un chemin, mais on ne savait pas qui était qui, voilà. Mais on se souvient de cette rencontre. Et puis, quelques mois plus tard, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Tu devrais rencontrer Frère Gilles, je pense que vous avez des choses à vous dire. » Je dis, bah, c'est bien, mais je ne veux pas aller à l'abbaye dire bonjour. Il paraît qu'on a des choses à se dire. Voilà, donc le temps a fait son action. Et un jour, une amie en commun, une amie écrivaine, nous a présenté. Et depuis ce jour-là, on a beaucoup de choses à se dire, à partager. Et effectivement, j'ai retrouvé en lui ce même amour de la nature, cet amour viscéral, en fait, le fait de ne faire qu'un avec les éléments et cet émerveillement au quotidien.
Alors lui, il est poète.
Hein, c'est ça, ce que j'allais dire, il l'exprime lui au travers d'un
alors,
autre
lui,
art
voilà.
Que la poésie.
Ouais. Oui, lui, c'est à travers les mots, des mots qu'il choisit en travaillant énormément, en cherchant les mots les plus justes possibles, des mots simples mais profonds. Et c'est toujours un émerveillement, mais avec beaucoup de jeunesse, beaucoup d'amour dans tout ce qu'il voit autour de lui. C'est chaque jour est un nouveau jour et chaque jour est un nouvel émerveillement. Donc moi, c'est ce que je ressentais aussi. Et mes photos et ses poèmes, en fait, ont fonctionné immédiatement à l'unisson.
C'est des poèmes qu'il avait écrits par ailleurs. Enfin, c'est pareil, il n'a pas écrit en fonction des photos.
Si. Ah. Oui.
Comment vous avez fait alors du coup
Oui, alors, déjà... L'avantage, c'est que comme on ressent les mêmes émotions, il retrouvait aussi ce qu'il ressentait dans mes photos. Et moi, je n'ai pas les mots, hein, je n'ai pas son talent. Donc, j'ai fait les photos que j'ai imprimées et que je lui ai confiées pendant tout l'hiver. Et qu'il est allé comme ça par terre pour avoir un visuel. Et attendre que l'inspiration lui vienne.
Il est allé sur place peut-être aussi parfois.
Il y a des endroits qu'il connaissait déjà bien, d'autres un peu moins bien. En Bretagne, on ressent cette émotion un peu partout. Des amis au bord du Blavet qui ressentent la même émotion dans le Trégor. Enfin voilà, c'est la lumière, la magie de l'instant est toujours la même. Mais du coup, il a voyagé un peu à travers mes photos. Et des mots lui sont venus progressivement parce qu'on a laissé... faire le temps, il n'y avait pas d'urgence. Et au fur et à mesure de ses balades, lui aussi en solitaire, il me disait qu'il entendait la musique des mots lui venir. Et c'est la musique de l'eau, le son de l'eau qui a été pour lui un peu son fil conducteur.
Et ça a donné ce livre, donc « Eau intérieure ». Pourquoi « Eau intérieure »
Déjà, j'aime beaucoup l'expression « Bretagne intérieure ». Je trouve que c'est d'une profondeur. C'est comme si on allait chercher un peu le sens profond des mots, l'âme vraiment de la Bretagne. Et puis alors, eau intérieure, donc eau au pluriel, parce qu'il y a toutes les eaux, toutes formes d'eau, même celles qui tombent du ciel aussi.
C'est pas facile de photographier la pluie, ceci dit.
Non, mais j'ai fait les flaques.
Voilà.
Et en fait, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé eau intérieure, c'était un terme très pratique pour avoir le permis des eaux intérieures et tout ça. Donc, je trouvais
juridique,
ça drôle, c'était
ça
juridique,
ah ouais.
C'était un terme technique en fait. Et je me suis dit, c'est drôle parce que je le trouve très poétique moi.
Oui, je suis d'accord.
Donc je me suis dit, ça confirme que la poésie est partout.
Ouais. ça ne pouvait que convenir à Oué Rivière en fait, eau intérieure.
Bah oui, bah ça aussi, alors c'est une autre rencontre quand Aïcha nous contacte en disant je vais publier ce livre. Je voudrais le faire en partenariat avec Oué Rivière, alors que ça tombe. Il y a des coïncidences qui finalement n'en sont pas, on peut penser, puisque ça tombe l'année où on célèbre nos 50 ans, où on veut positionner justement ça autour de ce regard porté sur la magie, la poésie, le sensitif. Et puis en l'écoutant encore parler, je me disais finalement, on a fait venir des Maoris nous raconter leur rapport à la nature, ça nous a fait du bien, mais... on aurait tout aussi bien pu faire venir Aïcha et Frère Gilles, puisque finalement, c'est quelque chose qu'on a compris, ça peut paraître étonnant, mais c'est qu'il y a une sorte de mystique qui dépasse toutes les frontières. Les Maoris appellent ça le Wakapapa, justement, ce rapport à la nature qui, où on fait qu'un. Al Gore l'a montré aussi dans ses conférences, en montrant cette image, cette première image de la planète prise d'Apollo, Apollo 11, je crois, ou Apollo 7, je ne sais plus, et qui finalement a révélé à tous qu'on n'avait qu'une seule planète, une seule mer. Edgar Morin l'appelle, enfin c'est la notion de mère matrie. Et en fait, on se rend compte que quelles que soient les civilisations, en fait, finalement, on voit bien que on vient tous du même endroit, on a tous cette même émotion, et sans doute qu'on a beaucoup plus à partager autour de ce rapport à la nature que autour de peut-être une approche qui est nécessaire, mais qui est plus scientifique, plus cartésienne. Et je crois que ça, voilà. Et donc, on était très contents. D'ailleurs, dans la petite page que Aïcha nous a laissée, j'ai eu l'occasion de laisser une phrase qui est souvent citée par le cofondateur d'Eau et Rivière, qui est une phrase de Julien Gracq, qui dit, j'espère pas me tromper, mais qui dit tant de gens pour transformer la nature et si peu pour la contempler. Et voilà, ça donnait du sens aux 50 années d'Eau et Rivière, qui n'a jamais perdu ça. C'est l'occasion pour moi de dire que ce qu'on sait peu d'Eau et Rivière de Bretagne, c'est qu'elle met en œuvre énormément d'actions d'éducation à l'environnement. Et la plupart des actions d'éducation à l'environnement sont basées justement sur l'émerveillement et le sensitif. Finalement, ce que les enfants retiennent d'Eau et Rivière quelques années après, c'est plus souvent des émotions que réellement des savoirs. Donc ça montre que ce sens-là, il doit être aujourd'hui activé beaucoup plus, sans doute.
On l'avait constaté notamment avec les grenouilles d'Anouk. On avait beaucoup aimé. Vous, Aïcha, quand vous photographiez la nature, vous l'abordez comment, en fait ? Est-ce que c'est un décor, un personnage ? C'est plus que ça ?
C'est nous, normalement. C'est nous, on se retrouve dans cette matrice. Et quand je vais dans un paysage, déjà, je prends le temps. Je ne vais pas forcément, j'ai pas un but, j'ai pas dans un endroit spécialement, je vais dans un paysage et j'accueille ce qui se passe autour de moi. Alors je choisis quand même un petit peu l'heure hein, pour avoir la lumière un peu mystique, le matin ou le soir, c'est vraiment particulier, surtout en hiver. Plus belle lumière, je trouve.
Ah oui.
Oh oui. En ce moment.
On n'en a pas beaucoup, mais
justement, elle est encore plus magique. Et donc, j'attends de voir ce qui va se passer et j'essaie de me faire oublier, de ne faire qu'un avec le paysage. Je ne suis pas à l'affût, je ne suis pas en chasse, je suis
elle,
là.
Elle fait ça tellement bien que sur certaines photos, on pourrait même penser qu'elle prend la photo et qu'elle l'est sur la photo à la fois.
C'est curieux. Et donc, il se passe des choses autour de moi. Il suffit juste d'être réceptif, d'écouter. Quand on est seul, c'est encore plus évident, parce que voilà, on est beaucoup plus attentif à tout ce qui nous entoure. Et là, il se passe des milliers de choses. Il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a pas besoin de gravir des montagnes, juste en bas de chez soi, dans la forêt, au bord d'une rivière. Vous asseyez une heure sur un caillou et vous allez voir toutes les merveilles qui vous entourent. Voilà, c'est ça que j'essaie de partager.
Donc vous êtes contemplative, ça c'est sûr.
Oui. C'est un enfer de marcher avec moi.
Tous les photographes le sont. Non, mais les photographes sont des contemplatifs, je pense.
Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas dans la technique, par contre. Moi, les photographes, je ne suis pas une photographe professionnelle, pas du tout. Je fais ça en amateur pour le plaisir du partage. Les trois quarts des boutons sur mon appareil, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc... Et ce n'est pas l'essentiel. Voilà. Je suis une contemplatrice, mais comme tout le monde peut le faire. Ce que je photographie, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le photographier. C'est juste d'être là et d'être réceptif à ce qui est devant nous et de vraiment l'accueillir, ne pas vouloir le prendre sans saisir, ne pas vouloir capturer. Moi juste je partage et quand je m'en vais, ma trace s'efface et j'espère, voilà. Et ce que mon plus grand bonheur, c'est quand je croise des animaux par hasard et que je ne vois pas de la terreur dans leur regard, ça fait plaisir, des fois ça change.
Oui, c'est vrai.
C'est une fois, une rencontre, j'étais en kayak sur l'Aule maritime. Et donc je glissais en silence comme ça sur l'eau, j'écoutais le chant des oiseaux, des canards qui s'envolaient. Et puis à un moment donné, mon œil a été attiré sur la rive. Et il y avait une tache rougeoyante comme ça sur la berge. Et c'était un chevreuil qui était en train de dormir et qui a levé tout simplement la tête et qui m'a regardée Je crois qu'on était chacun autant surpris l'un que l'autre, mais pas effrayés. Et je suis passée comme ça en silence. Je ne me suis pas arrêtée parce que c'est le prédateur qui s'arrête et qui fixe. Donc j'ai continué lentement. On s'est regardé. Alors moi, je crois que ce moment sera gravé dans ma tête à jamais. Pourtant, ce n'est pas exceptionnel un chevreuil. Hein. Je n'ai pas vu un éléphant. Mais voilà, et j'ai continué mon chemin. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'après le chevreuil...
Il s'est rendormi. Ah oui, en effet. Voilà. Vous pouvez être fière.
Non, pas fière, mais honorée plutôt.
Honorée, oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc, vous savez déjà de quoi sera fait votre prochain livre, enfin, s'il y a un prochain livre. Il sera toujours fait d'eau ou d'autres choses
Alors, ça mûrit dans la tête. J'ai des idées, forcément. Je suis toujours inspirée par tout ce qui nous entoure, les lumières surtout. Et je n'ai pas encore d'idées fixes, mais je laisse venir les choses parce que, voilà, pas de précipitation. Ça viendra quand ça viendra.
Vous reviendrez, vous serez bienvenue. Donc, je rappelle le titre, c'est Eau intérieure. Donc, c'est édité chez Poésie de l'Instant. Coédition Eau et Rivière de Bretagne. Ça fait partie des missions de... Non, c'est pas une coédition.
C'est pas une coédition, c'est un partenariat.
D'accord.
Non, c'est...
Ah ouais, parce que plus, je me demandais, mais alors Eau et Rivière devient éditeur?
Non, du tout. Par contre, je pense que Aïcha pourra préciser les lieux de vente, puisque sa diffusion est peut-être un peu particulière.
Bah, chez Dialogue, apparemment. Puisque...
Voilà, déjà ouais. Oui, sur les librairies de la Presqu'île, hein, bien sûr. Après, c'est-à-dire que la diffusion est un peu artisanale. Donc, si on veut savoir où se trouvent les livres au plus près de chez soi, ou on peut aussi les commander sur Internet, on peut me contacter par mail. Donc, c'est poesiedelinstant@gmail.com.
De toute façon, on mettra les coordonnées sur le site de Radio Évasion. Et puis, vous avez une page Facebook. Aïcha Dupois de Guitare, c'est ça? C'est le nom de la page? Non, c'est Poésie de l'Instant.
Oui, voilà Poésie de l'Instant, oui. Oui.
Alors, Eau et Rivière de Bretagne, il nous reste quelques minutes, Arnaud, pour faire un petit topo sur l'actualité, qui en particulier aujourd'hui, le Conseil régional de Bretagne qui vote la première mouture. Alors, encore un nom barbare.
J'ai presque honte que l'on parle de ça après ce moment paisible.
C'est vrai que là, c'est moins poétique, oui, là, déjà. Fait, mais ouais. Il faut en parler. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui doit encadrer les règles d'urbanisme et d'aménagement des communes et des intercommunalités, c'est ça?
Oui,
et
puis projeter la Bretagne vers 2040, vers une autre Bretagne. C'est un texte qui est issu... C'est la première fois qu'on a un schéma de ce type. Il est issu de la loi NOTRe, qui a réorganisé les régions, presque toutes, sauf la Bretagne. Mais on a quand même cet outil. Et c'est un travail qui a duré 3 ans en Bretagne, qui s'est accompagné d'une démarche un peu innovante, initiée par la région, qui s'est appelée la BRESCOP, qui a été une façon de faire remonter des collectivités, des entreprises, des citoyens, les idées justement pour une transition écologique de la Bretagne. Et aujourd'hui, c'est un moment important pour le Conseil régional, puisque le Conseil régional a rédigé ce document qui est copieux, qui dispose de règles. Et donc aujourd'hui, en ce moment même, enfin non là puisqu'il est midi, mais les élus débattent de la profondeur ou de l'intérêt de ce document. Et pour les associations qui ont émis énormément d'idées, c'est l'occasion aujourd'hui de publier une lettre ouverte à l'attention des élus, mais pas que, des élus qui sont en débat aujourd'hui, mais aussi des citoyens et des élus locaux, pour leur dire qu'il va falloir être courageux, parce que les nouvelles, chaque jour, nous rendent très pessimistes. Encore cette semaine, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne annonçait que beaucoup d'espèces animales étaient plus que menacées. On parle de 30% des oiseaux de campagne, on parle de 60% des oiseaux littoraux qui vont disparaître si on ne prend pas la mesure de cet effondrement. Et donc on appelle les élus à être courageux.
C'est-à-dire prendre des vraies mesures, quoi, pas des mesurettes.
C'est ça, et puis surtout être un peu plus prescriptif. Parce que ce qui nous inquiète, c'est qu'on a un document qui a des beaux objectifs.
Document d'urbanisme, surtout, enfin, d'aménagement.
Alors, c'est un document qui va au-delà un peu, hein, puisqu'il intègre d'autres schémas, comme le schéma des carrières, comme le schéma des déchets. Et souvent, en fait, ce document, il a comme intérêt d'être... vraiment d'avoir bien ciblé les orientations qu'il faudra prendre, mais de ne pas avoir tout à fait eu le courage de les transcrire dans des règles, de les imposer à tous. Or, plus on se rapproche du local, plus on se rapproche aussi des élections, et plus il est difficile pour un élu local de prendre des décisions qui, on le sait, vont changer la vie
vont pas plaire à tout le monde,
bien sûr. Ouais. Et donc, nous, on appelle dans cette lettre qu'on peut télécharger, enfin qu'on peut découvrir sur le site d'Eau et Rivière, à être courageux, parce que finalement, il faut être courageux, pas seulement pour nous aujourd'hui, mais il faut être courageux pour nous demain et nos enfants demain. C'est... Et c'est aujourd'hui que ces décisions-là doivent se prendre. On a trop tardé déjà.
Et concrètement, c'est quoi ? C'est réduire l'artificialisation des constructions ?
Concrètement, par exemple, c'est afficher, ce qui est déjà fait, une ambition de zéro imperméabilisation nette. La Bretagne est une des régions les plus consommatrices en espaces naturels et agricoles.
Et ah ça oui peut, ça peut malgré pas... notre agriculture, on construit...
C'est effrayant. C'est l'équivalent d'un département tous les 7 ans qui disparaît.
Ça, c'est l'ensemble de la France.
Ouais, ouais. Mais c'est dans ces proportions-là. Mais il n'y a qu'à regarder autour de nous. C'est effrayant. Les zones artisanales, les routes, les lotissements. Tout le monde en a bien conscience. Les supermarchés, les parkings, etc. Et donc... avoir cette ambition de zéro imperméabilisation nette. En fait, il n'y a pas pire pour les élus locaux que de parler d'urbanisme. Et c'est un vrai sujet compliqué, mais qu'il faut aborder avec courage, parce qu'on parle aussi dans le même temps de 400 000 Bretons supplémentaires dans les 20 ans. Et on voit bien la pression que ça va pouvoir mettre sur le littoral. Donc, avec certitude, on ne pourra plus penser l'urbanisme, on ne peut plus penser comme aujourd'hui. On a déjà réduit. Aujourd'hui, une maison peut disposer rarement de plus de 400 à 600 mètres carrés de terrain. Demain, c'est même le modèle de la maison avec le jardin, le pavillon individuel, qui doit être repensé. Et pas que dans les villes, à la campagne aussi. En fait, nos aïeux nous ont donné des bonnes leçons. Regardez la façon dont sont construits les bourgs des villages à la campagne.
Ouais, c'est bien resserré.
On ne peut pas mieux densifier que ce qui a été fait avant. Et donc, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas possible, puisqu'on l'a déjà fait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager les choses. Et il faut vraiment être courageux.
Bon, de toute façon, on mettra toutes ces références sur le site internet de Radio Évasion où on retrouvera toutes les données de cette émission qu'on peut réécouter par ailleurs. Merci.